Je remercie d'abord la laiterie de nous accueillir dans cet espace. Livré qui, fidèle à nos soirées, vient présenter les livres des personnes qui viennent nous parler. Je remercie la ville, le département, la DRAC et vous tous. Je présenterai tout à l'heure le prochain bistrot, quand nous aurons terminé la soirée. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Guy Escuret, qui vient nous faire réfléchir sur un thème tout à fait particulier dans l'anthropologie. Avant de parler du thème qui vous a fait venir, je voudrais dire quelques mots sur ce monsieur. Il a un doctorat en biologie et un doctorat en ethnologie, car, m'a-t-il dit tout à l'heure, il fait partie d'une génération où il a dû considérer. Je dis il a dû considérer parce que je fais partie de la même génération que lui, mais moi je n'ai qu'un seul doctorat, où il valait mieux avoir deux doctorats. Donc il a fait un doctorat en biologie et un doctorat en ethnologie. Cela l'a amené à explorer pas mal de domaines. Et après une certaine réticence, comme finalement beaucoup d'anthropologues contemporains, à l'égard du cannibalisme, à l'égard de l'anthropophagie, considérant comme beaucoup que c'était pas un objet d'étude pour la discipline, finalement, Georges Guy Escuret a eu envie d'explorer et d'interroger cette thématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est lui qui va le faire à travers son ouvrage, mais disons en quelques mots que la thématique qu'il va explorer dans ce premier ouvrage, celui que nous avons ce soir, qui est donc une sociologie comparée et qui se situe sur le terrain africain, est le début d'une trilogie, je dirais même d'une quadrilogie, à la fois trilogie parce que trois vont être publiés au même éditeur et le quatrième chez un autre éditeur. Le premier est donc sur l'Afrique, celui que vous avez et dont il va nous parler ce soir. Les deux autres vont être sur l'Océanie, l'Asie. Le troisième sur l'Amérique, le quatrième. D'accord, le quatrième est épistémologique et méthodologique. Donc il y a encore deux et trois ouvrages à paraître. La démarche dans cet ouvrage a été une démarche historique pour essayer d'interroger comment se fait-il que dans une démarche des anthropologues qui est d'accepter les différences, l'anthropologie a systématiquement nié le phénomène du cannibalisme et de l'anthropophagie. Quelque part, pour jouer sur les mots, mais ce n'est pas moi qui joue sur ces mots, je l'ai lu, on a du mal à digérer cette thématique. Georges Guy Escuret nous démontre que, quelque part, ça va réinterroger les rapports entre nature et culture. Et puis, moi, ce qui m'a paru particulièrement important et que je voudrais vous donner comme point fort, c'est qu'en fait, dans la relation des sociétés qui sont cannibales, anthropophages, on retrouve, nous dit-il, toujours sur les différents terrains, des points communs, des récurrences qui sont quand même particulièrement parlantes et qui réinterrogent d'une manière inversée le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la classique dialectique du maître et de l'esclave, les sociétés qui ont pratiqué et qui pratiquent peut-être le cannibalisme et l'anthropophagie se situe sur une relation de parité, sur une relation d'égalité. La proie, la victime et le prédateur, d'après les sociétés cannibales et anthropophages, ne sont que des questions liées aux circonstances de la guerre. Je suis proie et victime, mais je pourrais, à un autre moment, être le guerrier, celui qui chasse l'autre. Donc ça réinterroge de manière profonde notre rapport à l'autre. Et puis, je rajouterai que quelque chose, mais dont je laisserai Georges Guy Escuré nous expliquer, mais quelque chose qui est particulièrement intéressant par rapport à nos représentations et à nos constructions, par rapport à ces sociétés que l'anthropologie occidentale a tendance à reléguer aux confins de sociétés sans histoire, antidéluviennes, qui ne faisaient pas partie de la civilisation, etc. Il est important de rappeler, en tout cas pour le Centrafrique, que le premier anthropophage est l'homme blanc. On est bien d'accord. Bien. Là, je vais donner la parole à Georges Guy Escuré, qui va à la fois s'exprimer sur ce thème et qui va nous dire aussi quelques mots sur la thèse qui a été la sienne auprès de son maître, Jacques Barrault, qui est un personnage, mais je ne me sens pas dans la compétence de développer. Donc, je vais te laisser la parole.
Je commence par Barrault ou... Bien. Oui, ben Jacques Barrault était mon directeur de thèse. C'était un personnage. Les jeunes qui aujourd'hui font des études ont des enseignants qui n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'y a pas ces personnages comme Jean-Pierre Vernant ou Jacques Barrault qui sont à la fois des enseignants et les témoins d'une histoire. Jacques Barrault était issu de la bourgeoisie caldoche. C'est aussi célèbre en Nouvelle-Calédonie que les Lafleur. Et puis, il s'est retrouvé à faire ses études de lycéen à Marseille quand la guerre a déclaré. À 16 ans, il distribuait les cahiers clandestins des témoignages chrétiens, notamment le fameux numéro sur les Juifs. 17 ans, il passe le bac, il change aussi de catégorie, il rentre dans les groupes francs de combat. Son groupe est démantelé. Il est récupéré par un ami et il rentre cette fois dans les renseignements. Et il a terminé la guerre à Dachau. Alors, bon, quand on avait un professeur comme ça, c'était déjà assez marquant. Mais Jacques Barrault, sortant du camp de concentration, termine ses études, fait son diplôme d'agronomie et revient en Nouvelle-Calédonie. Et là, au bout de quelques mois, il se dit « il y a quelque chose qui cloche ». L'agronomie que l'on m'a enseignée, l'agronomie européenne, ne marche pas du tout en Nouvelle-Calédonie. Elle est totalement irrationnelle. Par contre, il y a une agronomie qui est très rationnelle, et c'est celle des Kanaks. Et il est devenu ethnobotaniste comme ça. Et donc, c'est difficile de résumer un personnage comme ça, mais c'est vrai que quand on avait un professeur de cette nature, on avait la nature de l'enseignement était en accord avec la nature du personnage, et c'était très particulier. Vous avez la chance d'avoir des professeurs qui n'ont jamais connu la guerre, mais d'un autre côté, le tri que ce genre de catastrophe peut provoquer est aussi parfois intéressant. Donc, je reviens sur les deux doctorats quand même. Ça vaut plus, ça marche plus. Je suis tombé la semaine dernière sur une série feuilleton américaine où l'inspecteur de police avait 3 doctorats et son adjoint en avait 2. Donc avec 2 doctorats, maintenant je ne suis plus qu'adjoint. Donc ça, je ne vais pas me vanter avec ça. Parlons du cannibalisme. C'est un sujet scabreux. C'est une phobie culturelle qui en même temps engendre la curiosité, comme... Souvent, l'horreur devient ambiguë et suscite secondairement une attraction que le cinéma montre avec des films de série B, mais aussi des films très sophistiqués. Et donc, il y a des exemples de cette ambiguïté. Notamment, dans les années 80, un cannibale japonais avait tué et mangé sa petite amie. Et le mensuel photo avait publié 15 jours après des photos qu'ils avaient piquées à l'identité judiciaire. Et je me souviens, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout, mais pas du tout au cannibalisme, mais je me souviens que j'avais pris le métro pendant ces jours-là, et les gens dans le métro affichaient tous le mensuel photo en train de regarder les photos. C'était d'autant plus étonnant que finalement le mensuel photo à cette époque-là, on ne le regardait pas dans le métro parce qu'on savait qu'il y avait des photos de femmes nues. Mais comme il y avait le cannibalisme, là on pouvait y aller. C'était très curieux comme attitude. Deuxième symptôme, des livres qui sont parus et qui paraissent périodiquement, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, c'est les livres que j'appelle la ratatouille factuelle. Une accumulation d'anecdotes avec un ton ironique de civilisé, regardant ça de loin, et où l'on mélange les fous, les maoris, un petit propos de Göring sur Dachau ou autre chose, ça devient très vite extrêmement vomitif, mais plus dans l'intention que dans ce qui est raconté. Troisième exemple, il y a eu plusieurs sites archéologiques qui ont donné lieu à des traces probantes de cannibalisme mésolithique ou néolithique. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à quelques années d'intervalle, le mensuel Science et Avenir a publié deux fois sur toute la première page, en grosses lettres, le même titre, « Nos ancêtres cannibales ». Le rapport à l'ancestralité et le cannibalisme est quelque chose de tout à fait particulier. Dès lors, quand même, sauf à être psychanalyste et donc porté professionnellement à viser des sujets troubles, celui qui s'emploie à étudier le cannibalisme devient immédiatement suspect de curiosité morbide. Et ça, je suis assez bien placé pour le savoir. J'avais publié deux articles sur le cannibalisme quand j'ai appris par un écho que j'avais la réputation, dans un grand laboratoire parisien, d'être un passionné de cannibalisme. C'était deux publications parmi quelques dizaines d'autres quand même. J'ai trouvé ça tout à fait curieux d'avoir tout d'un coup cette estampille. Un autre symptôme beaucoup plus récent, certains d'entre vous ont peut-être vu dans le monde des livres que j'avais fait des recherches sur le cannibalisme parce qu'un vieillard en Afrique m'avait dit, après avoir mangé une saucisse, c'est bon, on dirait de l'homme. Alors le type qui vous fait ce genre, qui était d'ailleurs, qui appartient à un laboratoire parisien, c'est pas un journaliste étranger à la question, s'il vous fait ce coup en vache, il faut bien l'appeler comme ça, c'est pour justement disqualifier votre recherche, en faire une espèce de folklore malsain. Et en réalité, le cannibalisme, à mes yeux, est quelque chose que l'on peut étudier hors de la psychanalyse et qu'on doit étudier sociologiquement et historiquement. À cela, il y a une première raison pratique, c'est que le cannibalisme a déclenché et continue à déclencher aujourd'hui le dédain, le mépris, l'aversion. C'est un fiel terrible de la xénophobie et l'un des stimulants de cette recherche au départ, ça a été un séjour que j'ai fait en Centrafrique et ça n'a pas été dans les villages où j'allais, c'était à Bangui quand j'ai vu le discours des coopérants sur ce sujet. Le cannibalisme est un instrument d'humiliation culturelle. La deuxième raison est plus logique ou plus théorique. Le cannibalisme est le critère éminent d'une opposition entre civilisé et barbare, ou entre civilisé et sauvage. Le cannibale ne peut en aucun cas être civilisé. Le civilisé ne peut en aucun cas être cannibale. C'est un antagonisme de principe en amont de toute argumentation. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages de Pierre Clastre, on a souvent opposé les primitifs aux civilisés en invoquant ce qui manquait aux primitifs par rapport aux civilisés. Ce sont des peuples sans histoire, des peuples sans écriture, etc., etc. Ici, précisément, on a un cas de figure contraire. Le civilisé est sans cannibalisme et le sauvage est avec. Et c'est d'autant plus intéressant que le civilisé se trouve incapable de justifier concrètement et rationnellement pourquoi l'anthropophagie serait une modalité funéraire moins convenable que l'inhumation ou la crémation. Néanmoins, le critère fonctionne loin au-delà de la seule civilisation occidentale. Je pense aux sociétés hawaïennes, je pense aux sociétés inca, je pense à l'Empire chinois, et à des exceptions intéressantes, celles des Aztèques, qui font un empire, mais qui se disent civilisés de fraîche date, et qui revendiquent, à travers même le cannibalisme, leur statut de barbare récemment civilisé. Dès qu'une culture se soucie de se définir comme supérieure et de concevoir le repoussoir d'une infériorité barbare, le cannibalisme se retrouve en position de pierre de touche. Accessoirement, les civilisés qui se préoccupent ainsi de se mettre en valeur face à un mode de vie prétendu inférieur sont aussi souvent des gens qui conçoivent une rupture entre le monde de la nature et le monde de la culture. Où les cannibales seraient restés du côté de la nature, seraient préhistoriques, antédiluviens, etc., etc., d'où le thème « Nos ancêtres cannibales ». Tandis que les sociétés admettant la raison d'être d'une anthropophagie se refusent systématiquement, et là il n'y a pas d'exception, à penser cette césure nature-culture. En conséquence, l'opposition civilisée-cannibale fonctionne assez bien et devient en elle-même une question pertinente. En définitive, le problème consistera moins à dire pourquoi certaines sociétés exotiques pratiquent peu ou prou l'anthropophagie que de situer le motif d'un refus intransigeant et durable à cet égard dans ce que nous appelons les civilisations et dans ce qui s'appelle soi-même la civilisation. Il y a de multiples façons et de multiples raisons d'être peu ou prou cannibales, mais il pourrait bien n'y avoir qu'une seule raison de se refuser énergiquement à cette pratique. Du coup, le cas de figure se prête à un travail inédit. On a souvent accusé l'ethnologie de participer discrètement ou indirectement à une infériorisation du primitif. Ici, la porte s'ouvre devant une enquête où la position du civilisé s'expose à un danger, découvrir sur son propre compte quelque chose d'inattendu. Je paraphrase ici l'ethnopsychanalyste Georges Devreux, qui dit que révéler quelque chose d'autrui, c'est courir le risque d'apprendre quelque chose sur soi-même. Mais il y a des façons de contourner le risque. Par exemple, vanter les mérites de celui qui restait près de la nature, en culpabilisant bien agréablement sur sa puissance, comme un Prométhée contrit. Pourquoi diable ai-je eu l'arrogance de dérober le feu aux dieux ? Vous retrouvez ce discours très souvent aujourd'hui, notamment dans les auras et les alentours de l'écologisme. Il y a eu une émission récemment où Nicolas Hulot visitait un village amazonien. C'était fantastique, c'était un discours du 19e siècle, c'était typiquement le discours que je viens de dire. On culpabilise, mais bon, on culpabilise en tant que puissant. Chercher à définir le verrou qu'installe le civilisé dans son univers quand il interdit par principe le cannibalisme revient alors à abandonner cette position avantageuse et ce confort. À tout seigneur, tout honneur, et en cette matière plus qu'en aucune autre, on trouvera deux points de départ pour ce problème chez les Grecs de l'Antiquité et dans le christianisme. Les Grecs sont souvent soucieux de l'aspect politique de la question. Et le cannibalisme parental, consanguin, qui paraît chez les dieux dans les mythes, Ouranos, les Atrides, s'oppose à un autre cannibalisme qui est tout aussi mythique, qui est l'allélophagie des ancêtres. Allélophagos, ça veut dire se manger les uns les autres. C'est d'ailleurs assez intéressant, je veux dire, le mot dominant n'était pas anthropophagie, mais allélophagie, c'était le problème politique de se manger les uns les autres. Dans les deux cas, la culture naît explicitement chez les Grecs de l'abandon de la pratique. Zeus se vanterait, dans des textes assez récents, fin de l'Antiquité, d'avoir ainsi ouvert le monde de la culture en abandonnant le cannibalisme. Et les Grecs, ils ont ainsi rendu possible la cité. Ce canevas, vous le retrouvez chez Freud. Le primitif est cannibale parce qu'il n'a pas d'inhibition, dit Freud. C'est textuellement ce qu'il dit dans Totem et Tabou, mais avec une inversion proprement structurale par rapport au mythe grec, qui est assez curieux. Freud veut fonder la culture sur la culpabilité. Elle arrive donc quand les enfants ont mangé le père, tandis que chez les Grecs, ce sont toujours les pères qui mangent les enfants. Deuxième source chez nous, les chrétiens, qui refusent le cannibalisme comme le font tous les monothéismes, mais qui en plus ont cette stimulation accrue qu'impose le caractère sacré de la chair humaine conçue à l'image du Créateur. Et la communion, bien évidemment, on l'a assez dit, cristallise cette dépendance. Ça n'est pas un rejet politique du cannibalisme auquel on assiste chez les chrétiens, c'est surtout le rejet religieux vis-à-vis de l'anthropophagie. Ça n'est pas l'allélophagie qui pose problème, c'est l'anthropophagie. L'homme est censé être autre chose qu'un animal. Et le prolongement évident du christianisme se retrouve alors dans l'humanisme, où vous avez des discours, notamment un que j'adore de Camille Coquilla, qui parle au Bangala et qui dit « Mais enfin, on ne mange pas un animal qui parle !» Et les Bangalais lui répondent « Au contraire, c'est un plat qui n'en a que plus de valeur. » Pour l'humanisme, le cannibalisme est une infraction, d'une part à l'irréductibilité de la nature humaine et d'autre part à l'étanchéité de la frontière nature-culture. C'est pourquoi là, on peut parler d'un inceste alimentaire. Je n'ai pas inventé l'expression, elle revient assez périodiquement dans la littérature ethnologique. Il s'ensuit que le cannibalisme, tout comme le génocide, se conçoit comme une insulte à la solidarité de l'espèce humaine. Raison pour laquelle, sans doute, le génocide et le cannibalisme prêtent tous deux à des réflexes négationnistes aussi puissants et aussi forts dans un cas que dans l'autre. Songez-y. Personne n'a jamais entrepris une recherche pour démontrer l'inexistence de la culture dans notre passé ou dans le passé des autres. Dans le cas du cannibalisme, ces réflexes sont flagrants dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire dès le siècle des Lumières. Alors j'espère avoir ainsi expliqué pourquoi le cannibalisme n'est pas un sujet anodin et pourquoi une sociologie comparée du cannibalisme m'a paru une entreprise importante. Curieusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du cannibalisme jusque vers 1914-1918, jusqu'à la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, dans les textes des revues scientifiques parisiennes en anthropologie ou les revues anglaises ou américaines, c'était un thème qui revenait régulièrement avec une accumulation de détails, d'anecdotes, de discussions sur le fait ou pas. Puis, au moment où l'ethnologie commence à se dire « bon, notre collaboration avec le colonialisme pose des problèmes éthiques », on a fui le sujet, et ceci jusqu'à la fin des années 70. Mais ça a été une fuite. Il n'y a que deux ou trois maîtres, Evans Pritchard, Lévi-Strauss, qui ont abordé de front le problème. C'était un évitement complet. Et à la fin des années 70, il revient, ce thème, et il revient très bizarrement avec les mêmes réflexes qu'au XVIIIe et au XIXe siècle. Premièrement, négation du sujet. Comme le faisait Paul Broca, beaucoup d'ethnologues aujourd'hui disent « le cannibalisme n'est pas un vrai sujet anthropologique ». Sauf que ce qui m'a mené à ce sujet, c'est finalement que c'en était un au regard de la civilisation. C'était une espèce de miroir fantastique pour voir, pour faire une ethnologie de la civilisation. Deuxième réflexe, les hommes mangent des hommes parce qu'ils ont des besoins en protéines, parce qu'ils ont besoin de se nourrir, et c'est une détermination purement naturaliste qui crée le cannibalisme. Pas du tout, disent d'autres personnes. Les hommes mangent d'autres hommes pour des motifs purement religieux. Et la quatrième attitude, ça constitue deux axes logiques. C'était tout simplement nier le cannibalisme. Cook, déjà à la fin du XIXe siècle, se plaignait que des gens songent encore à nier l'existence du cannibalisme. Donc on a retrouvé, et c'est le symptôme même d'un antagonisme idéologique qui perdure et qui se reconstruit pour une logique qui n'est pas apparente dans le débat, on a retrouvé les mêmes positions qu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le préhistorien qui défendait la religion, c'était Mortillet, et en face, vous aviez des maîtres dans l'anthropologie biologique, comme Le Tourneau et Nadaïak, qui disaient « Non, 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 c'est une perversion alimentaire due à la faim, etc. etc. » Quand arrive la fin des années 70, vous avez un débat qui apparaît tout d'un coup entre Marshall Salins et son grand ennemi Marvin Harris, secondé en l'occurrence par un chercheur qui avait produit une thèse sur le cannibalisme aztèque, expliquant que les seigneurs aztèques récupéraient des protéines en raison du peu de nourriture animale disponible au Mexique et qu'ils les récupéraient sur le dos du peuple afin de conserver leur avantage. Et on a eu à ce moment-là un débat qui, quand on y pense, est tout à fait surréaliste, qui opposait deux thèses. Les Aztèques ont mangé leurs voisins parce qu'ils avaient besoin de protéines, non parce qu'ils avaient besoin de symboles. La protéine contre le symbole, c'est quand même pas évident comme antagonisme logique. Ça a très bien fonctionné, ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le cannibalisme est redevenu un sujet ethnologiquement acceptable. Mais sitôt que ça a été le cas, est apparue une thèse intéressante, et d'ailleurs qui n'est pas réfutable. C'était celle de Monder Kilani, qui disait « Oui, on doit étudier le cannibalisme, mais il faut croiser l'imaginaire et l'événement. » Pas de raison de distinguer une sociologie du cannibalisme réel et une sociologie du cannibalisme mythique, imaginaire ou dans les fables. On doit traiter ensemble les fantasmes et le fait. Cette démarche est tout à fait valable. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre qu'elle n'est pas suffisante. Si vous mélangez le réel et l'imaginaire dans une étude du cannibalisme, ce mélange va donner un axe directeur, une dimension de votre étude qui sera psychologique. Si ça n'a pas d'importance que le cannibalisme soit réel ou purement symbolique, c'est donc que ce qu'il faut étudier, c'est le cannibalisme pensé. Bon, aujourd'hui, ça paraît presque évident, mais pour quelqu'un de ma génération, qui a eu une bonne formation matérialiste, il y a quand même une objection, c'est qu'il faudrait peut-être étudier aussi, à part, le cannibalisme réel pour voir s'il produit quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, cette étude va se nourrir de démographie, d'histoire, de technologie, d'écologie au sens le plus pratique. Et les deux types de recherches doivent exister. Mais il ne faut surtout pas commencer par dire « on va ne pas faire de différence ». Certains ne font pas de différence et traiteront le psychologique. Il revient à une sociologie pratique et historique d'étudier le cannibalisme réel, même s'il est plus inconvenant, même si l'étude semble tout d'un coup plus dérangeante. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet, et en plus, c'est aussi d'une certaine façon par aversion contre la domination du relativisme et du symbolisme dans l'ethnologie. Si j'ai fait deux doctorats, c'est que je voulais faire la biologie et l'ethnologie, c'est que je voulais avoir une intention pratique en ethnologie, c'est que je voulais avoir une vocation scientifique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, beaucoup d'ethnologues considèrent que affirmer une vocation scientifique, c'est carrément de mauvais goût. C'est à la limite du politiquement incorrect, c'est de l'arrogance, c'est de... Mais bon, moi, j'étais venu là pour ça, et donc, il m'est apparu que ce sujet était quelque chose comme ce qu'on appelle en archéologie la butte témoin, la zone témoin. Vous savez, sur un champ de fouille, on laisse une partie que l'on n'a pas fouillée. Une partie assez riche, sur laquelle on reviendra plus tard, quand on aura d'autres techniques et d'autres... pour faire une espèce de mesure diachronique des techniques d'investigation des préhistoriens eux-mêmes. Eh bien, finalement, le cannibalisme, ça a été ça. Ça a été une espèce de zone témoin, laissée en friche pendant 70 ans, sur laquelle on doit travailler aujourd'hui avec un regard forcément neuf, parce que tous les documents sur lesquels on travaille sont des documents qui viennent de gens qui étaient parfaitement racistes, parfaitement odieux. Et on s'aperçoit même que les meilleurs témoins, ceux qui vous donnent le plus d'informations, de choses probantes, sont les gens les plus antipathiques. J'ai en mémoire un certain comte Rodolphe Festetix de Tolna qui a fait son voyage de noces sur une goélette à travers les mers du Sud. Je n'ai jamais su si sa femme avait été d'accord, mais enfin bon, il y est passé 7 ans. Et ce hussard hongrois, ce comte, a les réflexes d'un aristocrate. Au milieu de gens qui sont des bourlingueurs, des soudards, des commerciaux sans scrupules, lui, il regarde ça en aristocrate, conscient du fait que sa caste est en voie de disparition. On se trouve en 1903, 10 ans avant la Première Guerre mondiale. Et ce type vous donne des informations avec un cynisme terrible qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus utilisables que des gens qui sont déjà protégé par le discours de l'évolutionnisme et d'un darwinisme souvent mal compris. Alors, il y aura dans ma sociologie comparée du cannibalisme, je vous rassure tout de suite parce qu'il y a des gens qui me disent « on est certain que tu écriras le tome 2 ». En réalité, c'est un simple problème d'édition. Les 3 tomes sont déjà écrits, mais on ne peut pas aujourd'hui publier tout ça en un seul volume. Donc, Il y aura 3 tomes. Le premier sur l'Afrique. Et un axe central y est apparu, c'est celui de la traite des esclaves. C'est-à-dire, c'est le démenti total du cannibalisme en tant que fait anhistorique, intemporel. Il n'y a pas, à aucun moment, de cas de cannibalisme en Afrique que l'on puisse déclarer purement et simplement traditionnel. En fait, le premier à se faire accuser de cannibalisme en Afrique, c'est Alvise Damosto, quand il remonte la Gambie, avec un argument très intéressant. Il se fait arrêter par plusieurs bateaux de chefs qui sont probablement des mandés et qui lui disent « On sait très bien le trafic d'êtres humains que vous faites. Vous êtes des cannibales. Sinon, on ne voit vraiment pas pourquoi il vous faut tant de captifs et tant d'esclaves. » Et cet argument va revenir pendant 5 siècles. Braza le retrouvera au Gabon. On le retrouvera sur toute la côte de l'Ouest. L'idée, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que les Blancs ont besoin de tant de captifs? Dans une société africaine en général, les captifs que l'on prend à la guerre, ou on les mange, ou on les adopte. Si on les adopte, ils font partie de la famille et leurs enfants ne sont plus des esclaves. L'idée d'esclaves dont les fils sont des esclaves, ça implique déjà l'État, ça implique déjà des classes aristocratiques. Ça se retrouve au nord de l'Afrique, mais dans l'Afrique noire, non. Alors, il y aura toujours cette suspicion vis-à-vis des Blancs et de la traite des esclaves. S'ils prennent tant d'hommes, c'est parce qu'ils les mangent. Et je vais pas, dans le livre, je donne toutes les anecdotes. Ça dure sur 3 siècles. Ça se retrouve dans plusieurs pays d'Afrique et c'est quelque chose de constant. Et en fait, les 2 premières grandes flambées cannibales auxquelles on assiste au XVIe siècle sont toutes les 2 liées à la traite des esclaves. La première, c'est celle des Jagas dans l'arrière-pays en Angola et au Congo. Parce que le royaume du Congo, précisément à cause des Portugais, est en train de s'effondrer, et c'était un royaume véritable. On a voulu en faire une petite chefferie. C'était un royaume qui organisait des régions de plusieurs centaines de milliers d'habitants chacune. On a complètement balayé ça. Il y a un moment, un arrêt de la traite des esclaves, et ceux qui fournissaient les esclaves, tout d'un coup, se révoltent contre les chefs, ce qu'on appelle les jagas, et ils utilisent le cannibalisme. Et vous avez un autre cas, c'est les manis, qui sont formés vraisemblablement par l'empire malien. Ce sont des gens qui en viennent et qui envahissent toute l'Afrique de l'Ouest, sur l'actuelle Sierra Leone et la région autour. Et eux ne sont pas cannibales. Mais les peuples qu'ils conquièrent ont des petits germes de cannibalisme traditionnel qui sont multipliés par les manis en disant « on vous donne le droit de faire du cannibalisme sur les peuples conquis ». Et à ce moment-là, il y a une flambée qui s'étend sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui est frappant sur ce premier tome en Afrique, c'est qu'à aucun moment on ne peut parler d'un cannibalisme traditionnel en Afrique. Il est toujours complètement enchevêtré avec la traite des esclaves, la traite des Européens, mais aussi la traite des Arabes. Il y a un exemple, est-ce que je dure trop longtemps ou c'est bon. Il y a un exemple extraordinaire, c'est Stanley, quand le grand découvreur qui va vers Livingstone, il est sur une rivière, donc découvrant un univers vierge, des hommes qui n'ont jamais vu la civilisation. Faut savoir que Stanley, il se déplace quand même avec une cohorte de 150 hommes, avec une arrière-garde et une avant-garde. Quand on voit arriver ça, c'est pas une ou deux pirogues comme on les voit dans les films hollywoodiens, c'est toute une cohorte. Et il voit à un moment des hommes qui arrivent et qui sont pas contents du tout de le voir arriver, et qui hurlent « de la viande, de la viande !» Oh, le cri fait le tour du monde, en Amérique, en Europe, « de la viande, regardez, ces gens-là nous prennent pour de la viande, c'est fantastique, c'est la préhistoire pure !» Le seul problème, c'est que cette région, 20 ans auparavant, était redevenue démographiquement prospère. Et que 20 ans auparavant, un commerce en provenance de Zanzibar est arrivé et a complètement ruiné la région. Un commerce qui avait ceci de particulier qu'on ne prenait même plus les hommes. On ne prenait que les femmes et les enfants, les hommes, on les laissait partir. Donc il arrive dans une région où il y a beaucoup d'hommes qui sont à la fois veufs et orphelins, totalement dépourvus de repères, et qui voient arriver une cohorte de 150 hommes qui ressemble beaucoup, quand même, quand on voit l'organisation de la chose, à une caravane de traiteurs d'esclaves. C'est ça le milieu anhistorique. En réalité, la région a été peuplée, dépeuplée, repeuplée, redépeuplée par la traite des esclaves. Et en découvrant les indices archéologiques, linguistiques, on s'aperçoit que dans le centre de l'Afrique, il faut parfois un siècle, un quart, pour différencier deux ethnies, avec deux langues différentes, deux cultures différentes, et quand elles se rencontrent 115 ans ou 120 ans plus tard, elles ne parlent plus la même langue et elles n'ont plus les mêmes coutumes, mais elles se sont séparées toujours pour la même raison, les rafles d'esclaves, soit en provenance d'Europe, soit en provenance d'Arabie. Donc ça fait le premier tome. Déjà, au moins, on peut enfoncer le clou sur une idée préconçue. Le cannibalisme n'est jamais anhistorique, c'est au contraire. Chez ces peuples dont on a toujours voulu nier l'histoire, le marqueur le plus extraordinaire du fait historique, de l'accident, de la crise. Le deuxième tome, ce sera sur l'Asie et l'Océanie. Alors ça sera déjà une autre ambiance, parce qu'il y aura deux fils rouges enchevêtrés. Le premier, c'est la démographie. Il faudra en parler quand même. Ce que c'est que l'augmentation démographique des peuples pendant le deuxième millénaire après Jésus-Christ. Et l'écologie, parce que aussi les peuples Asie et Océanie, c'est une autre façon de concevoir à la fois l'agriculture et la relation à l'autre. Et je pense aux thèses célèbres de Audricourt, comme quoi quand on traite le végétal individuellement, comme le taro, l'igname ou le bananier, on a un traitement individuel aussi sur l'autre, tandis que quand on traite les végétaux par masse, la fameuse poignée de grains de celui qui sème le blé, on traite aussi les autres par poignée et par masse. Et là, l'Asie et l'Océanie représentent quelque chose d'intéressant, parce que l'Empire chinois est à la fois une société de classe, une société qui s'affirme civilisée et juge les non-civilisés, mais qui a conservé cette culture originelle du rapport au végétal, et qui, par exemple, aura effectivement une condamnation de l'allélophagie, comme les Grecs, mais qui n'aura pas de condamnation de l'anthropophagie à la façon chrétienne. Donc, à ce moment-là, dans le deuxième tome, écologie et histoire vont être dans un dialogue plus riche que dans le premier tome africain, où il n'y a que l'histoire qui apparaît. Enfin, le troisième tome sera dominé, en somme, par un autre sujet, c'est celui de l'incorporation durable du cannibalisme dans certaines cultures. C'est vrai que Lévi-Strauss avait eu un espèce de coup de génie un jour. Il avait dit, ce qui est extraordinaire avec le cannibalisme, c'est que c'est un phénomène labile. Ça s'évapore, ça apparaît, ça disparaît, c'est sporadique. Et c'est vrai, sauf dans son terrain privilégié, l'Amérique. C'est vrai qu'en Océanie, en Afrique, vous prenez une société, elle est cannibale pendant une génération et pas pendant la génération suivante. C'est en cela que c'est précisément le marqueur des crises historiques. Le cannibalisme, contrairement à la chasse aux têtes, qui, elle, a une tradition qui se maintient et qui persiste, le cannibalisme, c'est vraiment un phénomène d'opportunisme historique, de réaction à la crise. Sauf, alors, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, où on a des sociétés qui sont profondément imprégnées de cannibalisme, jusque dans le centre de la culture, que ce soit les Tupi-Guarani ou les peuples du Mexique, il y a une incorporation au centre de l'idéologie. L'ennemi est une proie on a une alternance entre le gibier et le chasseur. Je suis chasseur aujourd'hui, je serai gibier demain. Et les deux positions sont toujours en possible permutation. Donc cette idéologie de la prédation américaine sera intéressante à étudier, et notamment un phénomène qu'on retrouve aussi bien chez les Aztèques que chez les Toupies, c'est l'adoption de celui que l'on va manger. Sous terme de beau-frère chez les Toupies, sous terme de fils chez les Aztèques, cette intériorisation de l'autre avant de procéder à l'exécution et au repas est quelque chose de flagrant. Voilà, donc le quatrième tome, celui qui paraîtra à l'EHSS et qui s'appelle Les Mangeurs d'autres, je vous rappelle qu'au fait c'est un seul bouquin au départ, c'est une seule recherche, traitera alors justement d'une ethnologie de la civilisation occidentale et de son rapport phobique au cannibalisme. Je crois qu'on peut... J'ai essayé de faire court de manière à pouvoir...
Merci beaucoup, Georges.